Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Alors aujourd'hui c'est notre première vraie émission de rentrée, on va vraiment faire une vraie émission avec un vrai sujet. Alors ça va être sur deux luttes actuelles, notamment une très très actuelle là, qui est sur la corniche de Romainville, à côté du fort de Romainville, entre le fort de Romainville et des Lilas, où il y a un projet d'abattage d'arbres. Et aussi sur les murs à pêche, qui est une zone de pour autant on va dire de friche, on verra ce qui s'y fait plus précisément, dans le Haut-Montreuil, et sur laquelle il y a un projet. Alors on va essayer de parler, à partir de ces deux cas, de la question des friches et des déprises dans la Seine-Saint-Denis, et de leur valorisation au sein des projets. Alors pour nous en parler, nous avons deux personnes en studio, une personne des murs à pêche, Pascal.
Bonjour.
Et une personne de Romainville, Hélène.
Bonjour.
Alors, peut-être la première chose qu'on peut se dire, c'est sur ces deux projets, de quoi il s'agit. Alors, est-ce que peut-être on commence par les murs à pêche ?
Si vous voulez. Bon, donc les murs à pêche, c'est un lieu qui est né au XVIIe siècle. Hein. C'est un lieu très particulier. C'est un lieu où on va inventer une technique. Du moins, on va l'intensifier, qui est comment faire pour avoir de la pêche tous les ans. Hein. Puisque, en fait, le pêcher, c'est un arbre qui fleurit tôt, qui fleurit au mois de mars. Une gelée, les fleurs, elles meurent, pas de fruits. Et donc, au XVIIe siècle, là, l'aristocratie s'intéresse à la culture des fruits, des pêches notamment. Ils reviennent de la guerre d'Italie. Et donc, on va développer hein, cette technique du mur à palisser. Qu'on va répandre hein, sur Montreuil, 500 km de murs à pêche. C'est un patrimoine, d'ailleurs c'est classé en tant que patrimoine cité paysage. C'est un patrimoine qui va être fait pendant 300 ans, hein. C'est comme les marais salants, comme les ortinelages d'Amiens. C'est la population, hein, 80%, 85% de la population montreuilloise, pendant 300 ans, vont constituer ces murs avec la terre, avec le silex, avec le gypse qu'ils vont faire cuire, hein, qu'ils vont broyer pour faire le plâtre. Hein. Bien sûr, contre les murs, il y avait les pêchers, mais bien sûr, on ne cultivait pas que les pêchers, vous pensez bien, hein, c'était un lieu économique. Donc, il y avait en contre-espalier les pommiers, les fleurs. Quoi. Voilà, c'est l'histoire de Montreuil, une histoire
économique. De Bagnolet.
Et de Bagnolet. D'ailleurs, il serait né à Bagnolet. En fait. Oui, en effet, il serait né à Bagnolet et ce serait étendu sur Montreuil. Hein. Et puis sur les communes limitrophes, Fontenay, Romainville, puisqu'on va parler de Romainville aussi d'ailleurs, Fontenay, voilà. Donc voilà cette histoire qui continue, mais je vous en dirai un peu plus tard.
Merci quand même, parce que donc c'est quand même ces pêchés, il n'y en a plus là. Quand est-ce que ça s'arrête et pourquoi ? C'est quoi la fin de ça ?
Alors donc, il y a encore des pêchés. Vous pouvez voir au sens de l'humus, vous pouvez voir des pêchés. C'est un jardin solidaire, hein, on peut cultiver le mardi, jardiner le mardi, mercredi, jeudi matin, où il y a un très joli jardin de dahlias. Vous pouvez les voir chez Patrick Fontaine, magnifique, hein, il sculpte ses arbres. Des palissages à la diable, vous pouvez voir l'association Mur à pêche depuis 95, hein, puisque les premiers pêchés, les anciennes variétés montreuilloises ont été replantées dès 95 par l'association Mur à pêche, la grosse mignonne, la galande, la noire de Montreuil, la tétonne de Vénus. Alors, cette activité s'est arrêtée relativement tôt, hein, au niveau du XXe siècle, le développement du chemin de fer qui faisait que les fruits venaient de la vallée du Rhône, et du Midi. Bien sûr, l'accroissement de la région parisienne. Tout autour de Paris, chacun avait son savoir-faire. À Vitry, le lilas. À Montmorency, la cerise. À Argenteuil, la figue, l'asperge. Voilà, donc c'est bien sûr l'accroissement de la population, les emprises pour faire du logement social ou pour faire des équipements publics ont fait que ce lieu devienne résiduel. Mais jusque là encore, il y a encore un horticulteur, je pense à monsieur Roger d'ailleurs. Si vous voulez acheter des chrysanthèmes, c'est bientôt la saison des chrysanthèmes hein, pour la Toussaint. Eh bien, Roger, lui, il cultive encore ses chrysanthèmes. Il y travaille depuis une cinquantaine d'années, hein, 45 ans au moins, sur les murs à pêche. Voilà, donc le lieu s'est arrêté par la pression urbaine, par le fait que les horticulteurs ont travaillé un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est un paysage très singulier. C'est un lieu incroyable. C'est un lieu de plein de poésie et c'est un lieu unique. Vous avez des murs à pêche, ce paysage au cœur de l'agglomération parisienne, uniquement sur Montreuil. Et c'est un lieu de liberté, un lieu de force. Vous avez une quinzaine d'associations qui sont sur le site et c'est un lieu qui est protégé par les habitants. Et ce lieu existe encore parce qu'en 89, il y a eu la DHM qui s'est battue pour le préserver. Et puis après, il y a eu l'association Murs à Pêche. Et puis, il y a la Société régionale d'horticulture de Montreuil. Et puis, il y a les habitants, 3000 personnes là, le 20 mai, pour se battre pour préserver les murs à pêche.
Pourquoi, si tu peux nous dire en deux mots, avant qu'on passe à la présentation de Romainville, pourquoi il y avait ces 3000 personnes le printemps dernier? Parce que là, il y a une actualité quand même.
Parce que ces murs à pêche, on est au cœur de l'agglomération parisienne. Qu'est-ce qu'ils font, les politiques? Ils rêvent de quoi? Ils rêvent de construire. Ils rêvent, à chaque fois, ils nous mettent un équipement public. Et là, grâce au Grand Paris, à cause du Grand Paris, ils ont changé d'échelle. C'est plus de l'équipement public qu'ils nous mettent sur les murs à pêche, c'est du logement. Ils appauvrissent ce lieu. Ces murs à pêche ont plus de valeur non bâtie que bâtie. C'est un patrimoine unique qui existe qu'à Montreuil. Et eux, ils ont beaucoup d'imagination. Hein. Putain, bravo hein, les gars. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils font du logement. Non mais franchement...
Donc on peut peut-être passer à la lutte de Romainville qui est beaucoup plus sous la pression immédiate ces jours même.
Alors peut-être...
Deux mots d'abord sur ce qu'est ce projet, sur ce qu'est cet espace, qui est une forêt, ce qui est très étrange en Île-de-France.
Alors je voudrais le dire d'emblée, peut-être que j'aurai l'occasion de le répéter, mais la lutte qui se passe aujourd'hui pour sauver les arbres et pour sauver la forêt, c'est pas une lutte contre la base de loisirs. On est tous et toutes pour la base de loisirs, mais une base de loisirs de qualité. Pas ce massacre auquel on assiste aujourd'hui, le cœur serré. Alors, la base de loisirs, il faut le préciser, c'est pas les 27 hectares de ces pauvres 27 hectares de forêt. C'est 64 hectares, donc 27 d'un côté, 37 de l'autre. Et les 37 hectares, c'est des parcs arborés, des parcs de qualité, des parcs intéressants, avec d'énormes pelouses.
Alors, parce qu'il faut situer les choses, donc là, on est sur les pentes qui sont en gros entre Romainville et Pantin, et qui vont des Lilas jusqu'à Noisy-le-Sec de l'autre côté.
Oui.
Et donc, à cet endroit-là, il y avait une carrière de gypse. Et donc, c'est ça qui est la forêt. Est-ce que tu peux nous dire un peu cette activité et
alors,
ce qu'elle est devenue?
Alors, jusqu'en 1965, il y a eu effectivement une activité de gypse.
De carrière de gypse
pour faire du plâtre, hein, c'était une ressource stratégique hein, à l'époque. Voilà. Donc d'ailleurs, juste une parenthèse, aujourd'hui, quand on voit qu'on veut combler le gypse qui a été exploité par du sable, qui est une autre ressource tout aussi stratégique, on se dit que là, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond.
Il va bien falloir creuser des trous quelque part pour reboucher les trous de l'Île-de-France.
Oui, cela dit, on peut peut-être... il n'est pas pensable de reprendre du sable, qui est une ressource rare et de plus en plus, et prendre du sable dans les rivières ou ailleurs. Oui. C'est toujours une destruction absolument... Oui. Inconcevable.
On avait fait une émission sur ça, sur l'exploitation de sable, justement, en Bretagne, sur les collectifs qui luttent contre ça. Oui. Donc là, actuellement, il y a une forêt qui est assez unique en Île-de-France à cet endroit-là, maintenant.
Alors, c'est une forêt qui est unique. D'abord, d'emblée, j'ai simplement l'anecdote. En 2012, il y avait les journées du patrimoine. Et donc, les associations environnementales avaient organisé une manifestation sur le patrimoine vivant. Et lors de cette journée... Fabrice Nicolino, qui est un militant invétéré de l'écologie et qui est une mémoire vivante de toute l'histoire de l'écologie politique et qui a une taille de chercheur, enfin, qui est quelqu'un d'extraordinaire, n'a pas pu résister et a dit « je veux aller voir ce qui se passe dans cette forêt ». On l'a suivi. Et là, c'est un petit peu Alice au Pays des Merveilles, quoi. On pousse une porte cochère, c'est l'image... On pousse une porte cochère et on arrive dans une forêt vierge, avec des arbres majestueux qui dégouline de lianes, de clématites, de houblon, de quinquefolia, enfin des choses extraordinaires. Et on est arrivé dans un monde complètement magique. Voilà. Alors c'était exubérant, c'était... Et là, en ressortant de cette forêt, on a eu du mal à en ressortir tellement on était saisi, quoi. Dans ce monde sauvage, on a pensé à tous les... On a rencontré tous ces habitants. Et il a dit, mais cette forêt, on ne peut pas y toucher, quoi. C'est quelque chose d'unique à préserver à tout prix. Et à partir de là, on a monté un petit collectif qui a un petit peu grossi pour la protéger, parce qu'on avait compris que... alors, c'est même pas des appétits. Hein. Je crois que c'est l'appétit de la bêtise. C'est de l'absurdité, quoi. Comment on peut imaginer... Il n'y a pas d'intérêt économique non plus. Je ne trouve pas d'autre mot que la bêtise. La paresse intellectuelle, enfin bref. Comment on peut imaginer couper des arbres pour mettre une pelouse? Mais on en est là.
Est-ce que du coup, maintenant, tu peux un peu plus développer quel est le projet? Au tout début, tu nous as parlé de balles de loisirs, là, tu nous parles de pelouse. Alors, décrire un peu concrètement, maintenant qu'on se situe un peu dans cette forêt.
Je rappelle qu'alors qu'on a ces 37 hectares, qui sont pour l'essentiel des pelouses, hein, on va abîmer, on va couper 4000 arbres pour faire des pelouses, pour y installer des équipements d'une banalité affligeante, comme des agrès, comme à un coin peut-être un poney club, 3-4 moutons. En réalité, très peu de choses. Hein. C'est vraiment une petite passerelle, une passerelle pas très longue, mais très lourdingue, avec des gabions, c'est-à-dire des galets dans du grillage, là. Hein. Un truc bien lourdingue, bien... Bon, c'est juste impossible. Moi, je suis pas une ayatollah. Il y aurait une structure, une infrastructure stratégique à installer à cet endroit-là. On peut y réfléchir pour faire le moins de dégâts possible. Mais là, des arbres pour mettre de la pelouse, c'est juste inconcevable.
Et tout ça, ça a un coût, non? Si tu peux nous expliquer à combien se chiffrent les projets, alors, parce que c'est des millions qui sont engagés.
Alors, ce qui met vraiment en colère aussi les habitants, les militants, voilà, de ce mouvement qui grossit tous les jours, hein, c'est quand même qu'avec de l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables, avec le nôtre, avec le vôtre, hein, puisqu'on est tous en Île-de-France, il y a 34 millions de budget total. Alors, 70% ont déjà été consommés dans très peu de choses, quelques jardins familiaux, bah, évidemment beaucoup d'études, de contre-études, d'expertises, tout un tas de... Parce qu'évidemment, dans cette forêt, je ne sais pas si on l'a dit, mais elle s'est développée sur des anciennes carrières, donc il y a un gruyère en dessous, il y a beaucoup de vide, bon, ce qui évidemment peut générer des éboulements, d'ailleurs il y en a quelques-uns.
Donc là, si on comprend bien, tout l'enjeu du projet, c'est notamment de reboucher les trous de façon à ce que le terrain soit accessible avec une certaine sécurité, c'est ça le...
Voilà, donc pour faire ces pelouses, on va injecter... 34 000 mètres cubes de sable, du ciment, de l'eau, enfin, on va faire un béton bien coulant, quoi, une viscosité, voilà, tout ça pour uniquement reboucher ces trous, pour mettre en sécurité ces 8 hectares. Voilà, parce que ces 8 hectares qui sont concernés, c'est le tiers de la forêt. Donc ça va la défigurer, et puis c'est pas anodin d'injecter du béton dans un sous-sol.
Oui, parce qu'il y a tout un effet d'écoulement des eaux, c'est ça?
Alors,
qui serait...
Y a, bien sûr que ça va bouleverser le régime hydraulique du sous-sol. Ça peut peut-être même générer, enfin, provoquer des inondations et des désordres dans le bâti qui est en contrebas, dans le bassin versant. Ça peut... de toute façon, l'eau trouvera son chemin, et on ne sait pas lequel... Mais c'est surtout les arbres, le reste de la forêt. On ne sait pas très bien où va s'écouler ce béton. On nous dit que c'est dans des chaussettes un peu élastiques qui prennent la forme des... Bon, moi j'ai une toute petite expérience à Bagnolet. On a construit une crèche dans les années 2000, début des années 2000. On savait que c'était sur des carrières. L'entreprise a injecté du béton, a fait couler du béton dans les galeries. Et puis à un moment, elle a regardé le compteur, elle a dit « ça fait beaucoup de milliers d'euros là, on va peut-être arrêter ». On ne sait pas où il est parti. Bon, ils ont choisi une autre méthode constructive et ces milliers d'euros, ces dizaines de milliers d'euros ont été juste gaspillés, quoi. Voilà. Donc, parce qu'à l'époque, les carriers déclaraient pas toujours les galeries qu'ils ouvraient à l'inspection des carrières parce qu'il fallait payer la taxe. Bon, voilà. Donc, on peut... Bien sûr qu'il y a les plans de l'inspection générale des carrières, mais est-ce qu'ils sont complètement... est-ce qu'ils correspondent complètement à la réalité? Ça, c'est une question.
Ça, c'est tout un paradoxe de Paris et de l'Île-de-France. C'est qu'il a fallu, pour bâtir Paris, creuser des trous dans Paris, et qu'au fur et à mesure que Paris s'étend, il faut reboucher les trous sur lesquels, et c'est tout le truc des catacombes, oui. Des couloirs, où c'est Paris est construit sur un gruyère qui s'auto-alimente. C'est très étrange.
Oui, c'est très étrange comme... on a quand même l'impression qu'il y a des gens qui marchent sur la tête.
Mais oui, mais c'est parce qu'on ne pense pas forcément, quand on creuse un trou, que plus tard ce sera la ville. Et quand la ville y arrive, il faut le reboucher en creusant un trou plus loin, et ainsi de suite. Et là, on en est à chercher du sable en Bretagne pour reboucher les trous de Romainville. Enfin, il y a un truc comme ça qui est assez dingue.
Qui s'auto-alimente. Oui. Ouais. Alors, c'est ce que je disais aux débuts, quoi. Si effectivement c'était pour une infrastructure utile et intéressante, ma foi, quelques sacrifices sont possibles. Voilà. Mais là, franchement, pour faire de la pelouse, je le répète, de la pelouse, il n'y a rien de plus pauvre qu'une pelouse.
Effectivement.
Voilà.
Alors, oui, si tu veux dire deux mots.
Oui, en sachant qu'il y a déjà de la pelouse tout autour,
oui.
Qui n'est pas entretenue. Les jeux ne sont pas entretenus. Là, ils veulent faire une base de loisirs à côté d'un espace où il y a des jeux qui ne sont pas entretenus. Bon, je ne comprends pas très bien, quoi. Il y a un truc qui colle pas. Il faut que les gens viennent voir sur place, quoi. Parce qu'il y a un problème de bon sens un tout petit peu quand même dans cette histoire.
Bah oui. Alors avant de parler plus précisément des projets attendus à un espace ou un autre, je vous propose qu'on écoute Catherine Ringer, puisqu'on sait que Catherine Ringer a ouvert le grillage au sécateur.
Merci Catherine.
Et donc je vous propose qu'on écoute les Rita Mitsouko.
Je suis un peu plus de temps. est immense quand tu souris et quand tu ris.
Donc on vient d'écouter Catherine Ringer, donc Rita Mitsouko. Juste avant d'écouter cette musique, en fait, on parlait que cette personne-là avait ouvert un grillage. Est-ce que tu peux, Hélène, nous plonger dans cette ambiance? Pourquoi, en fait, il y a un grillage qui a été ouvert? Qu'est-ce qui se passe actuellement depuis le 8,
ouais,
sur, depuis le 8 dans octobre, la forêt?
Depuis le 8 octobre, eh ben, l'abattage des arbres, ce n'est plus une menace, c'est une réalité. C'est, ben, je crois qu'aujourd'hui, peut-être demain, les 8000 arbres, les 4000 arbres seront tombés. Et on les a entendus, on les a... Et ça, ça a eu un impact émotionnel extrême, parce que c'est un spectacle, c'est une torture. On ne peut pas rester indifférent, d'autant qu'on voit les animaux en panique se sauver. Ce matin, en arrivant, on a vu des écureuils traverser la route, on a vu des hérissons, on a vu surtout des oiseaux en panique qui tournaient complètement désorientés. On arrive à 7h30 le matin, il fait nuit. Et ce spectacle-là, ça provoque une angoisse, au moins chez les humains normalement constitués, quoi, qui ont quand même un peu de relation avec les autres espèces, quoi, espèces vivantes, quoi. Et je crois qu'ils en ont besoin de cette relation. Ça leur éviterait peut-être de faire des bêtises. Voilà. Et donc, Catherine Ringer, elle est venue à notre rassemblement qu'on a fait le dimanche d'avant, la veille. Hein. Et elle a demandé la parole et elle a dit qu'elle soutenait notre mouvement. Et je lui ai dit que je la prenais au mot. Et le lendemain matin, elle était sur les lieux avec nous pour arrêter les machines. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on a épuisé toutes les voies de recours, les voies de recours démocratiques, et que là, ben, on se retrouve avec nos corps, quoi, pour arrêter les machines.
Parce que là, l'urgence, c'était ça, c'était de mettre fin à l'abattage avant qu'il ait lieu, quoi.
Voilà, on n'avait plus d'autre choix que de venir s'opposer physiquement à ces engins de mort, quoi.
Alors peut-être on peut dire quelques mots sur les projets qui convoitent ces espaces, qui sont particuliers dans l'Île-de-France. Alors peut-être on peut reprendre maintenant sur les murs à pêche, ça fait quelques temps qu'on n'a pas évoqué les murs à pêche. Alors c'est un espace qui est assez grand sur le Haut-Montreuil et qui est resté en réserve foncière pendant assez longtemps, avec divers projets qui ont été mis, puis enlevés, et maintenant il y en a un qui semblerait, il y a un nouveau actuel. Du coup, si tu peux reprendre les 2-3 projets qui étaient
alors,
en cours. Et...
Donc les murs à pêche, hein. Donc, c'était 300 hectares, hein, 500 km de murs sur Montreuil, à l'apogée, sur Montreuil et les communes limitrophes, enfin les 500 km de murs. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 1970, donc ça date un peu, hein, l'idée de la municipalité, c'est de faire une réserve foncière. Il y a un document municipal qui se nomme comme ça. Et c'était l'idée de maintenir l'emploi ouvrier. Hein, il fallait maintenir l'emploi ouvrier. Ben, c'était les électeurs, c'était les habitants. Donc, ça se comprend, hein, comme logique. Et donc, on fait une réserve foncière. On va préempter les terrains pour pouvoir implanter des bâtiments industriels. Entre-temps, on met un bout d'autoroute dessus. On coupe les murs à pêche en deux par un bout d'autoroute, donc on va saccager l'axe des murs à pêche et la ZAC Pierre de Montreuil, hein, avec...
Je peux juste préciser l'acronyme ZAC si tout le monde n'est pas au clair là-dessus.
Alors c'est zone d'aménagement concertée entre les politiques et et les industriels, sûrement les promoteurs, mais pas avec les habitants. D'ailleurs, la preuve, c'est que les habitants se sont dit « Non, non, nous, on n'est pas d'accord, on y habite, hein, dans ce lieu ou à côté. Vous voulez racheter nos terrains avec 3 euros, à l'époque, c'était avec 3 sous. » Donc, il y a une association qui s'est constituée à l'époque, en 89, la DHM, Association de défense des habitants de Montreuil. D'ailleurs, la DHM, hein, elle va reprendre
du service,
là, parce qu'il y a des projets sur Chanzy, sur le bas Montreuil, donc elle va reprendre du service. Et grâce à cette association, eh bien, elle a été au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a dit « Ah, monsieur le maire, votre projet industriel, ce n'est pas possible parce que les murs à pêche, nous, au niveau de l'État, au niveau du schéma d'aménagement d'Île-de-France de 76, on a prévu que ce soit une réserve d'espace vert. Ah, écoutez, parfois, l'État a des bonnes intuitions. Et donc, grâce à cette protection inscrite au SDRIF de 76, la ZAC est tombée. La ZAC est tombée grâce au Conseil d'État et grâce surtout aux habitants qui se sont dit « on ne va pas laisser faire ça ». Bien sûr, ça ne pouvait pas rester en état. 94, changement du SDRIF, et ça devient zone urbanisable à 80%. Hein. Et bien sûr, on comprend très vite, c'est fait pourquoi. Hein. C'est fait pour, à nouveau, un grand plan d'aménagement des murs à pêche. Alors là, je ne vous dis pas, à nouveau, zone industrielle en pourtour des rues, à l'intérieur du site, création de voiries qui n'existaient pas. On fait des impasses, hein, on met des maisons, on fait des placettes, quoi, on aménage tout le site, à l'exception de 3 allées jardins, quand même, il faut le souligner. Hein.
Pour le folklore.
Pour que le reste vaille plus cher.
Quoi.
Ah, peut-être, en effet, beaucoup de choses se font comme ça aujourd'hui. Hein. On voit ça au niveau de la corniche, là, la faute de la corniche, là, ils vendent la base de loisirs. Les promoteurs, c'est eux qui vendent la base de loisirs sur leur documentation. Et donc, ce projet à nouveau tombe parce que les gens, ils voient bien que ce n'est pas possible. Et il y a un classement du site, au titre des paysages, hein, site et paysages. Très peu de classements en Seine-Saint-Denis. Vous avez 2 sites classés en Seine-Saint-Denis. En France, vous avez 1200 sites classés au titre des sites et paysages. En Seine-Saint-Denis, uniquement 2. Hein. Donc, les habitants sont contents d'avoir un site classé, site et paysages, et ils sont fiers. La Société régionale d'horticulture de Montreuil, qui existe depuis le 19e siècle, elle s'est constituée dès qu'elle a pu se constituer au niveau des lois, eh bien, va relancer une activité de marquage des fruits, va retravailler sur les variétés de pommes de Montreuil. Il y a toute une dynamique qui se recrée grâce au classement du site. La municipalité, bon, merci, parce qu'à l'époque, elle a fait un appel à projet. Plein d'associations vont rentrer sur le site, vont faire un lieu vivant, un lieu de liberté, un lieu culturel, un lieu d'insertion, de formation, d'horticulture. Et puis la beauté du lieu, c'est une poésie.
C'est un univers.
Oh, c'est un univers. Alors les gens, ils me disent, je suis dans le Morvan. Non, vous n'êtes pas dans le Morvan, mais pour lui, ça lui parle. Puis d'autres vont me dire qu'ils sont en Bretagne. Non, on est à Montreuil. Hein, il y a des gitans qui habitent. Pourquoi ? Parce que quand on a fait l'autoroute, eh bien, ils ont dû s'installer quelque part. Donc c'est aussi un quartier gitan qui peut créer des tensions. Vous avez des jardins, des friches, des dépôts. Vous avez toutes sortes de choses. C'est un lieu vivant, c'est un lieu incroyable. Et unique. Et qu'est-ce qu'on nous propose alors ? Les grands projets, ils n'ont pas marché. Donc alors, les politiques, ils se sont dit, bon, puisqu'on n'arrive pas à faire des grands projets, les populations ne veulent pas, on va faire des petits bouts par petits bouts. Un coup, un collège. Un coup, une piscine. Un coup, un garage à tramway. Ah, c'est difficile de se battre contre un garage à tramway, contre une piscine. Et puis maintenant, ils ont descendu un niveau. Alors, le Grand Paris, là, c'est très bien. Ils font des projets. Qui décide de ces projets ? Ils font des jurys. Est-ce qu'il y a un seul habitant dans ces jurys ? Aucun. Ça se décide entre les politiques, dans leur truc de Grand Paris, là, entre les maires, les conseillers, machin. Ils disent « Oh, on est lauréat !» Mais ce sont eux-mêmes nommés lauréats. Ils se disent « Oh, regardez, on est lauréat !» Ils se sont choisis lauréats avec les Bouygues, avec les Eiffages. Et puis, ils nous mettent du logement dans les murs à pêche. Ils nous mettaient des équipements publics, ils nous mettent du logement. Mais c'est le degré zéro d'une réflexion sur un site comme ça. Ça existe qu'à Montreuil, ces murs à pêche. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ils vont nous banaliser cet espace. Incroyable. Et c'est qu'un début. Ils nous disent, c'est un projet probatoire. Si ça fonctionne, on le refera. Et là, le plan local d'urbanisme de Montreuil, ils nous réduisent les espaces verts. Les murs à pêche étaient inclus en espaces verts. Ils nous réduisent les espaces verts. Et ils nous disent, on va faire 5 portes pour rentrer dans les murs à pêche. C'est pas pour rentrer dans les murs à pêche, c'est pour construire dans les murs à pêche. Voilà. Voilà où on en est.
Et alors, donc on va aussi parler du projet à Romainville. Et peut-être un mot, c'est que mine de rien, les espaces verts, je trouve, en Seine-Saint-Denis, ils ont, moi, je trouve, un rôle particulier, c'est que bon, les habitants de Seine-Saint-Denis n'ont pas forcément les moyens ni l'occasion de partir au week-end, et qu'on sait que quand on fréquente ces lieux le week-end, beaucoup de gens y passent leur week-end, et c'est le cas aussi à Romainville, où des gens sortent le barbecue, et en fait, ils y passent le week-end, c'est leur lieu de villégiature, d'une certaine façon. Alors donc là, à Romainville, donc, il y a officiellement une base de loisirs, et donc, suite à ce que je viens de dire, on pourrait dire, eh ben, tant mieux, ça fait un lieu de villégiature en plus. Sauf qu'en fait, il semblerait que ce soit plus compliqué, puisque déjà, les lieux qui existent déjà ne sont pas entretenus. Et ensuite, surtout, il y aurait des projets immobiliers attenants. Alors, est-ce que, Hélène, tu peux nous dire un peu quels sont les enjeux en fait, réels de cette destruction ?
Une précision, ce n'est pas un lieu en plus. La forêt, elle a jamais été, elle a toujours été fermée, clôturée. Donc, il n'y a rien en plus. Les 8 hectares là, ne vont rien apporter de supplémentaire. Bon, l'offre d'espace vert, elle est constituée par les 37 hectares des parcs qui entourent, dont la forêt est le cœur, en fait, hein, le joyau et le cœur, qui ne va rien gagner, les habitants ne vont rien gagner avec ces pauvres 8 hectares banalisés en plus, comme le reste de la base. Donc, il n'y a aucun bonus là-dedans. Hein. Donc, moi, je voulais quand même préciser un truc important. C'est que la corniche des forts, c'est à 2 km de Paris. C'est quand même aussi extraordinaire, on ne peut pas imaginer, quoi, d'avoir un bijou pareil aussi près de Paris. Quoi. Voilà. C'est très peu connu, d'ailleurs, en même temps. Hein. Presque interdit de... Presque... Voilà. Alors... Tu as posé une autre question.
Oui, c'était sur le projet réel, en fait. C'est que il y a évidemment derrière cette idée de loisirs, et c'est ce que Pascal disait, c'est que les promoteurs actuels autour de cet espace signalent déjà qu'il y aura une base de loisirs, et qu'en fait, parce que la forêt est inaccessible, du coup, elle n'est pas valorisable. À partir du moment où elle est accessible, elle peut être valorisée par les infrastructures autres.
Ça fait quand même un petit peu partie des inquiétudes qu'on a. Des arrière-pensées qui peuvent traverser l'esprit de certains promoteurs. Là, il y a une construction de Next City, qui s'appelle Natura, évidemment, qui est... Les branches d'arbres de la forêt rentrent dans le bâtiment en construction. Hein, on en est là. Bon, une fois qu'au pied de ce bâtiment, il est au pied des carrières. Hein, lui, il est stable, mais lui, il est au pied des carrières. Une fois que cette partie sera stabilisée, dont le sol sera stabilisé, on peut très bien craindre, pour le moins, qu'il y ait des appétits en se disant, bah maintenant que c'est une prairie, que c'est une pelouse, c'est pas très intéressant, on peut quand même rajouter une petite opération, un petit programme sympathique qui sera lui encore au ras de la forêt. Voilà. Et donc ça, c'est quand même une inquiétude qu'on a, même si là, aujourd'hui, il n'y a pas de programme, bien
c'est
évidemment.
C'est ça. Alors, est-ce que pour l'instant, tu peux nous chiffrer un peu ce qu'il y aurait, parce que tu dis qu'il y a l'immeuble Next City qui est juste au-dessus. Est-ce que tu as en tête d'autres projets qui, pour l'instant, il n'y a pas de truc assez clair à part le Next City?
Non, là, il y a, enfin moi, je suis pas romainvilloise vraiment, puisque je suis bagnoletaise, mais je suis quand même la politique romaine. Non, je ne connais pas d'autres projets aussi proches. Mais c'est vrai que c'est l'argument de vente qui permet aux promoteurs, c'est une manière de dérouler le tapis rouge aux promoteurs en leur disant, d'ailleurs dans leur dépliant, c'est vu imprenable sur la forêt, quoi. Voilà. Donc, bien évidemment, on peut imaginer qu'il y aurait d'autres appétits. Les appétits sont tellement puissants dans cette région qu'on est quand même très inquiet également sur ce sujet.
Est-ce que peut-être on peut préciser pour ceux qui ne le savent pas, mais donc Romainville est actuellement au cœur d'une politique d'expansion des habitants de Paris, à savoir que le métro va arriver et qu'il est probable que certains habitants n'en bénéficient pas puisque les prix vont augmenter et qu'ils vont devoir partir, et qu'on peut imaginer que ces projets-là, ils n'ont pas en arrière-pensée une nouvelle population potentiellement qui pourrait investir ces lieux.
Tu fais allusion à la fameuse gentrification. Voilà, voilà.
Et c'est, bon. C'est aussi la même qu'on est en train de voir avec dans le Haut-Montreuil, où il y a aussi la ligne 1, si je ne me trompe pas, qui va être prolongée.
Alors,
il y a un projet pour la monter jusqu'au Bel Air, dans le Haut-Montreuil, voilà, à proximité immédiate.
C'est ça, puis repartir sur Vincennes. Mais bon, je crois que c'est un peu arrêté comme projet actuellement. Alors, ce qu'on peut voir hein, dans le même type de dynamique, c'est les zones Natura 2000, par exemple à Montreuil, hein, au niveau du parc des Guilans. On a une zone Natura 2000 en bas du parc des Guilans. Et qu'est-ce qu'on fait de cette zone Natura 2000? On la fait sauter. Hein, on l'a fait sauter parce qu'il faut faire un collège. Romainville, c'est la
Natura 2000, c'est une toute petite protection.
Et, oui, c'est une toute petite,
c'est vraiment une sous-protection.
C'est ça. On nous dit Natura 2000, Natura 2000, on est content. Non, non, et puis on nous dit ah ben on va l'enlever parce qu'il faut faire le collège. Romainville, c'est la ville qui construit le plus. Il y a d'ailleurs une association remarquable qui s'appelle ASVR qui s'est battue pour essayer de conserver les éléments patrimoniaux du village de Romainville, qui a malgré tout subit beaucoup de désillusions puisqu'il y a un certain nombre de bâtiments caractéristiques qui ont disparu, hein, à côté de l'église notamment. On construit le plus, mais après, il faut faire les équipements publics. Quand vous augmentez la population, on met où les équipements publics ? C'est facile de rajouter des étages dans une rue, mais un équipement public, un collège, un lycée,
des
il faut des écoles, il faut de la place. Automatiquement, ils le prennent sur les espaces publics. Automatiquement, à Bondy, ils voulaient vendre le lavoir à je ne sais plus quel, à Vinci. Ou... Automatiquement, bien sûr que les espaces publics, les espaces verts, les espaces naturels, ils sont en danger. Bien sûr que si on commence la prairie dans 10 ans, dans 15 ans, on nous dira ah, écoutez, on va prendre un quart. C'est pas très grave, il en reste trois quarts. Et à chaque fois, ils vont nous faire le coup. Ils nous le font à chaque fois le coup. Hein, c'est connu. Nous, on le voit là, les murs à pêche, ils le morcellent, ils font la vente à la découpe. Une ville communiste fait la vente à la découpe de son patrimoine et le vend à qui ? À des majors de l'ouest de Parisien. Mais c'est scandaleux.
Eh bien, vu qu'ici, mine de rien, c'est la Seine-Saint-Denis, eh bien, c'est la Seine-Saint-Denis style, c'est de la bombe bébé.
Warriors ! C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour, Arthur. C'est parti, ça vient de Sané. Direct, issu de la génération fort qui t'a gêné. Pas de soucis, mais pas de chip ici. Pas de chichi si tu dérapes, on te chie dessus. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde sont étiquetés pour un. Mais c'est comme ça. Connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler, que les pédales s'engraissent. Et puis, ça bible de nous, rêve de voir en dessous. Mais ne t'approche pas, Hollande de Bond te fout des coups. Bon, si tu respectes pas les règles, mec du béton, pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec, tout cela, je les stoppe à base de pop, 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 pop. Sinister, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mec, pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au début. Sandy, Sandy, funk, funky fresh. Sandy, Sandy, funk, funky fresh.
Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, négro, pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fit ta tessie dans tous ces états.
Tu kiffes
pas, Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit, j'lâche pas 9-3.
J'suis le droit avec un funk spécial.
Ça c'est le sinister.
C'est le sinister.
C'est le sinister.
C'est le sinister.
Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Eh oh, ça se reconnaît au débit, baby.
C'est la génération funky taquini.
Pas de chichi, pas de chippie. Si tu dérapes, on te chie dessus.
C'est de la bombe, bébé.
Peut-être qu'on est là avant de passer aux luttes qui se mènent contre ces projets. Peut-être on va prendre quelques minutes pour essayer de comprendre en quelques mots ces projets, comment ils sont menés. C'est-à-dire qu'en général, c'est la ville qui les mène. Est-ce qu'elle le fait savoir ? On a parlé à un moment qu'il y avait un jury, il n'y avait en fait aucune Montreuilois dedans. Voilà. En gros, c'est qui mène ces projets et voilà, c'est qui a la manœuvre là-dedans et comment on peut être au courant de ça ?
Les projets, bien évidemment. Moi, j'ai presque l'impression que maintenant, les villes bouclent leur budget avec les terrains qu'elles vendent, c'est-à-dire les bijoux de famille, et puis les taxes d'aménagement. Voilà. Bon, mais ça, c'est un fusil à tirer à un coup. Hein. L'année d'après, il faut trouver autre chose. Donc, moi, je remarque que Romainville a augmenté avec ses programmes, augmente d'un quart, sa population d'un quart. Voilà. Donc on est dans et là je voudrais revenir aux espaces verts quoi. On en a de plus en plus besoin. Plus on densifie et plus la demande et la nécessité d'espaces verts se fait prégnante. Donc voilà, nous on le voit dans la lutte sur la corniche quoi. Qu'est-ce qui motive les gens? Qu'est-ce qui les fait bondir? Qu'est-ce qui les fait hurler? C'est l'urgence climatique. personne ne peut comprendre qu'on puisse supprimer des arbres. C'est ce qui les pousse à rejoindre le mouvement. Et là, on a beaucoup d'habitants qui le rejoignent sur la base du climat. Enfin, quand le GIEC nous dit, je vous en supplie, si on veut sauver la planète, planter des arbres, planter des forêts, et que là, on en détruit, mais pour rien, 4000, c'est absolument insupportable. Là, il y a une incompréhension totale de la société qui est, de ce côté-là, bien plus en avance que les politiques. Les politiques ont un retard phénoménal de ne pas comprendre que l'urgence climatique, ça concerne tout le monde. Est-ce que je pourrais ajouter quand même que... Et là c'est la dilution des responsabilités. Hein, la dilution des responsabilités. On a un petit peu affaire à un lynchage. Dans un lynchage, tout le monde donne un coup, un petit coup. Il ne veut pas tuer, hein, il donne un coup. Un autre en donne un autre, et ainsi de suite. Et à la fin, là, j'ai arraché quelques arbres. Là, j'en ai arraché autant. Ben, moi, j'en ai arraché un petit peu aux Philippines, un petit peu en Afrique, un petit peu... Beaucoup au Mexique, beaucoup en Afrique, beaucoup en Asie, hein, faut dire la vérité. On n'en a plus tellement, nous, en France, donc on ne peut peut-être pas... Bon. Et, la planète est morte. Ah, ben, moi, je n'ai pas fait grand-chose, quand même. C'est exactement la même logique que le lynchage. Voilà.
Là, on est en agglomération dense. Paris, on augmente les habitants, on fait le Grand Paris, on veut étendre les transports en commun, on veut concentrer la population, mais ils sont où les espaces naturels ? Il faut les conserver. S'il y avait un politique qui dirait « on va faire une forêt de 4000 arbres », on dirait « super », mais là, ils font le contraire. Là, ils disent « on va supprimer 4000 arbres ». Et ils ont eu des dérogations. Ils ont eu des dérogations. L'État leur donne des dérogations pour suppression, pour...
Destruction. D'espèces protégées.
Mais on nous parle de biodiversité. On nous fait des colloques.
Des agences régionales.
Mais arrêtons de se moquer du monde. Arrêtons de... Faisons pas semblant.
Et donc là, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a deux types... d'espaces, mais qui subissent tous les deux donc des projets d'aménagement. Autant une forêt qu'on pourra qualifier de beaucoup plus sauvage, autant un espace à Montreuil qui mène du patrimoine vivant, patrimoine architectural, des dynamiques, donc des espaces en fait verts différents. Et là, ce qu'on aimerait savoir pour clore un peu l'émission, c'est quel type de lutte vous y menez très concrètement actuellement. Est-ce que vous pouvez juste revenir là-dessus, autant sur les murs à pêche, qui ne sont pas du tout dans la même dynamique que Romainville ?
Alors, d'abord, il faut dire qu'il y a des projets d'aménagement, et puis il y a la mort lente. Il y a la mort lente. Hein. Il faut savoir que le site, on le laisse se détruire. Il y a le site classé, il y a les murs qui tombent, on laisse tomber. On ne joue pas son rôle, il y a un cynisme très fort. Hein, on nettoie pas les rues, il y a des dépôts qui se font, etc. Non seulement il y a la mort accélérée par les projets d'urbanisation, et puis il y a la mort lente par le cynisme. Hein, ça, on le constate fortement. Hein, ça, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi les murs à pêche, le cœur des murs à pêche sera sauvé. Il sera sauvé parce que les gens se sont mobilisés, parce que la jeunesse se mobilise, parce que les jardiniers se mobilisent, parce qu'il y a des actions culturelles dans les murs à pêche, parce qu'il y a les lézards dans les murs, et bien qui font de l'aide aux devoirs, et qui les enfants font visiter aux visiteurs le patrimoine. Voilà, il y a plein de choses comme ça dans les murs à pêche.
Mais du coup, ce que tu t'essayes de nous dire, c'est qu'en fait, la lutte qui est menée en ce moment pour conserver les murs à pêche, c'est peut-être une lutte un peu plus invisible, mais de faire présence tout le temps sur place, de remplir des activités.
Mardi, vendredi de cette semaine, hein, on va nettoyer des parcelles pour planter un verger. Mardi et vendredi de cette semaine, on va travailler sur trois parcelles différentes. Si les gens veulent venir, ils peuvent venir. Hein, il suffit d'écrire à info@murapeche.org hein, ou chercher sur Internet. Ils vont trouver. Il y a une fédération d'associations de 14 personnes, de 14 associations. Toutes ces associations sont conventionnées avec la ville. Toutes ces associations, ils ont dit non au projet de la ville. Vous comprenez hein? Nous, on tient au mur à pêche, on tient à notre liberté. Il y a des gens qui vivent en ce lieu. Il y a des activités qui se font. On ne peut pas, comme ça, nous écraser. On nous impose des trucs. Il y a eu des concertations. Les gens, ils ont dit, on ne veut pas ça. Et la ville a dit, bah, on fera ça à plein pot. On se moque du monde.
Voilà. Oui, bah, sur la corniche, la mobilisation, alors elle est aujourd'hui physique. Mais elle a commencé il y a bien longtemps. On a quand même une pétition « Sauvons la forêt de la corniche des forts à Romainville hein, ». C'est sur change.org, c'est facile à trouver. Ça. On vous en supplie, venez la signer. Beaucoup de gens la signent hein, en ce moment, surtout. Mais continuez à l'alimenter, continuez à sauver cette forêt. Et puis, on a aussi... moi, j'ai des remerciements à faire aux médias. Certes, ils ont fait leur boulot, mais ils l'ont fait bien. Et je n'ai pas vu un journaliste qui n'a pas été sous le charme de la forêt. J'en ai pas vu un. Et j'en ai pas vu un non plus qui trouvait que les aménagements avaient une quelconque valeur et pouvaient apporter quelque chose à la forêt, à la place de la forêt. Et puis, on se mobilise. On a des renforts en mobilisation, oui.
Oui, c'est ça, parce que là, pour l'instant, on pourrait dire un peu, justement, comme tu as dit, les concertations, en gros, ils s'en foutent. Et donc, on peut imaginer qu'une pétition et des instances médiatiques n'empêchent pas l'abattage des arbres. Du coup, et là, il se trouve...
On est à 12 000 oui, signatures.
Il se trouve que malheureusement, le gouvernement, ou la ville, elle peut regarder et dire, littéralement, on s'en fout. Mmh. Et du coup, ce qui se trouve, c'est que depuis quelques jours aussi à Romainville, donc dimanche, si je ne m'abuse, il y a eu une manifestation avec quelques centaines de personnes. Et depuis le début de la semaine, il se passe des choses, on va dire, un peu plus concrètes, on pourrait dire, contre ces machines. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance sur place, tous les matins, ce qui se passe?
Alors, effectivement, on arrive le matin à 7h30. C'est un rendez-vous qui est quotidien. On découvre donc les machines qui commencent à... D'ailleurs, depuis qu'on arrive, elles arrivent plus tôt, elles fonctionnent au phare, voilà, en pleine nuit, parce qu'il fait encore nuit hein, maintenant, le matin. Et puis, après, on cherche à les arrêter. Donc, on essaye de rentrer, la police municipale arrive, la police nationale arrive.
Elle nous accueille maintenant.
Oui, oui, aussi bizarre que ça puisse paraître... même la police n'est pas insensible du tout, même les policiers qu'on rencontre quotidiennement ne sont pas insensibles du tout à notre combat. Ils se retranchent derrière leur obligation de réserve, mais pas très longtemps quand on arrive à discuter avec eux. Hein. Voilà, pas très longtemps, les uns et les autres.
Et juste sur ce point vu qu'on parle de la police et des gendarmes, il me semble qu'il y a eu quand même eu quelques répressions, des gardes à vue.
Non, il n'y a pas eu de garde à vue. Il y a quelques personnes, il y en a deux hier et une aujourd'hui, qui ont été en vérification d'identité. Donc c'est une procédure qui peut prendre 4 heures. Bon, ça a existé. Oui, il y a une graduation quand même dans la répression, hein, évidemment. Au début, on nous demandait gentiment de sortir, on nous raccompagnait vers la sortie. Bon, depuis, ça s'est évidemment un petit peu durci, faut dire la vérité. Mais on ne peut pas non plus appeler ça une répression violente. Aujourd'hui, les 7 quarts de CRS sont venus pour simplement débloquer le camion qui portait la grue. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'évacuation. Donc j'ai presque l'impression qu'il y a une compréhension, même presque un partage du sentiment de légitimité de cette lutte. Tout le monde comprend, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre que le climat est en danger. Tout le monde le sait et tout le monde partage.
On voit le massacre.
Oui, bien sûr, mais sauf que ça, là, ce que vous dites, c'est-à-dire que ça ne dit rien des ambitions de la police, à savoir qu'on peut dire que Notre-Dame-des-Landes, il semblait assez évident qu'ils étaient en train de faire un véritable massacre à la fois des habitations et de l'espace. Ça ne les a pas empêchés d'y aller, et assez joyeusement. Mais il y a quand même quelque chose ici que peut-être on peut soulever un petit peu. C'est que, mine de rien, donc sur cette lutte-là, comme tu as parlé, tu as dit notamment légitime. Tu as utilisé ce mot-là. Et non, mais c'est important, je trouve qu'en Seine-Saint-Denis, la plupart des luttes sont illégitimes. C'est-à-dire que ce soit les luttes contre les violences policières, que ce soit les luttes contre le racisme ou quoi, elles sont parfaitement légitimes. Je veux dire, elles sont déclarées légitimes largement. Et justement, elles sont souvent réprimées comme telles. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pour Adama Traoré, par exemple, où il y a toute une occupation policière de l'espace qui se fait. Voilà. Et il se trouve que pour ces luttes-là, elles ne sont pas traitées de la même façon. C'est-à-dire que, de fait, personne ne s'est fait tabasser. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que tu as tout à fait raison. Je pense que quand tu dis qu'elles sont assez peu réprimées par rapport à ce qui peut se passer en Seine-Saint-Denis en temps normal.
Elles sont très partagées. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors, ce qu'il faut voir aussi, d'abord, il faut voir que... Bon, je participe un peu hein, à la lutte de la forêt.
Pas un peu.
Hein. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a des militantes incroyables. Alors, je vous ai parlé de la jeunesse hein, sur les murs à pêche. Mais à Romainville... On a des dames d'un certain âge qui gambadent devant les machines. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le poulet, pardon, le policier ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ?
Non, c'est pas le policier, là, c'est le conducteur d'engin. Hein.
Les gens...
Les engins comme
on
ça.
On a ouais. En général de l'espoir dans la jeunesse. Mais moi, j'ai de l'espoir maintenant encore plus, parce que quand je vois les capacités de ces femmes, qu'ils ont du courage, ils se disent « on y va ». Nous, on est là, on réfléchit, est-ce qu'il faut y aller ? Non, on y va, il faut y aller. Alors, elles nous entraînent, c'est les fers de lance. Elles nous entraînent. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a des groupes constitués, il faut leur rendre hommage.
Oui, hein, absolument.
Les gens qui désobéissent, qui sont organisés, qui se mettent devant les machines.
Des gens de Notre-Dame-des-Landes.
Des gens qui prennent des risques, qui prennent des risques, ils ont du cran, ils ont du courage, ils sont là, ils savent qu'ils vont se faire sortir par la police, ils savent qu'ils sont dans le collimateur. Et ils viennent, ils prennent des risques. Bravo, moi je ne le ferai pas. Je dis franchement, je ne ferai pas ce qu'ils font. Voilà. En effet, tout n'est pas rose. Hein. On sait bien qu'il peut y avoir des bavures. On sait bien que parfois, dans tous les milieux, il y a des brebis galeuses, y compris, voilà, c'est comme ça. Mais vive la vieillesse, vive la jeunesse aussi. Hein.
Non, mais ce n'était pas du tout un jugement de valeur sur ce que peuvent faire les gens à ce moment-là donné. C'était uniquement du point de vue de ce que l'État... peut se permettre de faire face à certaines personnes et pas face à rapport. C'était uniquement
alors,
ça que je...
Je pense que là, ils n'ont pas trop envie d'avoir un martyr.
Et c'est ça, voilà.
Bon, quand même. Hein,
il y a eu des accidents, hein, n'est-ce pas
hein, ouais, on... y a quand même...
Il y a
voilà,
quelques morts.
Il y a quand même... Dans le combat écologique, on a mal de martyrs aussi.
Voilà, on a eu quelques éborgnés en Seine-Saint-Denis aussi. Voilà, donc...
À Montreuil.
À Montreuil. Deux à Montreuil.
Voilà.
Donc, voilà. Donc, on sait bien que... Alors justement, on sait aussi aller au contact pour discuter, pour expliciter, pour voilà, il faut faire ce travail aussi.
Non, mais
moi je voulais revenir juste sur le climat là, parce que c'était quand même assez symptomatique quoi. Le lundi où le GIEC sortait son rapport et nous expliquait que on était mal barré, c'était la dernière fois qu'il nous le disait. Hein. On vous le dira plus, c'est le dernier. Hein. Après, ce sera trop tard. Demain, c'est trop tard. Ils ont commencé à abattre les arbres. Là, il y avait une espèce de symbole effrayant, mortifiant. Bon, je rappelle comme ça, parce que maintenant, il y a des scientifiques qui ont fait des calculs et qui ont évalué qu'un arbre, c'était 5 climatiseurs. Et
donc là, on a là, 400
on est,
arbres.
Là, on est à
4000 arbres. 8
hectares.
On est à 4000 arbres. On est à 20 000 climatiseurs. Ça fait même plus qu'un par habitant de Romainville. Donc, ça va bien au-delà. L'îlot de fraîcheur que représente cette forêt... Enfin, que représente ce bout de forêt. Ce bout de forêt, c'est 8 hectares. Ça fait 20 000 climatiseurs. On a connu les canicules, on voit les inondations qui sont des conséquences de ce réchauffement climatique, de cette déforestation. Toutes ces conséquences, on les connaît. Et là, on a des irresponsables pour abattre 4 000 arbres. Ils ont quasiment fini. Il reste On vous appelle vraiment à venir tous les matins, pas le samedi ni le dimanche, ces gens-là se reposent.
Ben justement, peut-être on peut finir avec ces questions-là. Peut-être vous allez donner vos rendez-vous parce qu'il se passe quelque chose dans ces différents endroits. Alors,
excusez-moi avant de donner un rendez-vous, je voudrais rappeler qu'il y avait des propositions sur ce lieu. Fabrice Nicolino avait proposé de faire un lieu populaire, un lieu de la biodiversité.
Un lieu éducatif. Scientifique.
Nous sommes en Seine-Saint-Denis, on a le droit à la culture, on a le droit à la biodiversité. Hein, on n'est pas une réserve pour mettre du logement. Et pourquoi ? Parce qu'après, on va aller habiter plus loin. Hein. Le logement qu'on fait, ce n'est pas pour les habitants de Seine-Saint-Denis. C'est parce que les Parisiens ne peuvent plus se loger, ça coûte trop cher. Et donc, ils vont loger en Seine-Saint-Denis. Et les gens de Seine-Saint-Denis vont aller habiter plus loin. C'est couru d'avance. C'est couru d'avance.
Il y a une école d'architecture, l'école spéciale d'architecture du boulevard Raspail, qui a travaillé pendant un an à des propositions extrêmement respectueuses et complètement innovantes et magnifiques. Ils ne sont même pas venus voir leur travail. alors qu'on les a invités. Donc, on est quand même dans une forme de blocage et d'incompréhension, une forme de tour d'ivoire. C'est moi qui ai le fric, le vôtre, le nôtre, hein, et je décide. Et circuler, il n'y a rien à voir. Votre avis ne nous intéresse pas. Nous sommes les sachants, vous n'êtes rien. Enfin, vraiment, il y a un mépris, quelque chose d'insupportable, alors que, bon, il y a quand même eu la tribune de Libération qui a été...
Clément, le grand paysagiste français.
Clément, le plus grand. Enfin,
Dit quoi ? Il dit que c'est un massacre et que c'est un crime de faire ça.
Voilà,
il
utilise... voilà. Alors ce crime contre le climat, un crime contre le paysage, un crime contre les habitants qui
contre la Seine-Saint-Denis, et qui une forêt sauvage, une forêt naturelle qui est née il y a 60 ans.
Qui est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Alors, tous les matins de la semaine, les enseignants, là, j'en connais, qui me disent, ça y est, les vacances arrivent, on va pouvoir venir. N'hésitez pas, vous venez.
Alors justement, vos...
Et dimanche, on fait un pique-nique.
Vos rendez-vous voilà. respectifs. Alors donc là, pour le Mur à Pêche, alors comment on fait pour vous contacter, comment on fait pour vous rejoindre? Alors les Murs à Pêche.
Murs à Pêche, Fédération des Murs à Pêche, 14 associations. Donc tous les dimanches après-midi, nous sommes ouverts. Impasse Gobétu avec des associations. Il y a plein de... On peut aller jardiner le mardi, mercredi, jeudi au Jardin Solidaire, Jardin de Dahlia, très beau jardin. On peut venir nous aider ce mardi et ce vendredi. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu où on peut faire des projets, où c'est des propositions, venez, on restaure des murs, on est en train de restaurer un mur, demain on restaurera encore un mur, vendredi demain, c'est, voilà, donc voilà, c'est un lieu ouvert, venez, hein, on vous attend.
Et alors pour...
C'est un lieu magnifique, hein.
Pour y aller, c'est le
découvrir.
C'est en dehors du temps. Hein. Alors, et donc, pour, donc là, pour l'immédiateté, on va dire, de Romainville, comment on fait
alors,
pour y aller?
Alors, dimanche, nouveau pique-nique, on refera le point. On se réorganisera. Nouveau pique-nique à partir de 13h à peu près, quoi. Puis on y passe l'après-midi autant qu'on veut. Hein. On a des mètres carrés de pelouse, il n'y a aucun problème. C'est au métro, alors c'est la Sapinière. C'est 81 rue avenue du Colonel Fabien. Et c'est à Romainville.
Et on
ne trouvait pas à Montreuil.
Non, et on s'arrête ligne 5 à Pantin-les-Limites, Raymond-Queneau.
À Raymond-Queneau, voilà. Et il y a deux bus qui y mènent, le 129. Fort de Romainville et le 318 Manérol.
Et sinon, pour vous, donc, c'est aussi tous les matins.
Alors, c'est tous les matins.
Ouais, sur place.
Tous les matins sur place. Venez apporter votre contribution.
Vous pouvez nous rejoindre en cours de matinée.
Hein, oui,
vous pouvez
bien
nous...
sûr.
Hein
et comme on tient la journée, c'est toute la
on
journée.
On a arrêté
qu'on a
plusieurs fois
de...
les machines. Voilà. Plusieurs fois, on a réussi à arrêter les machines.
Voilà. Et là, il faut absolument arrêter ce comblement qui n'a aucun sens. Aucun sens.
Alors, et puis, il y a le buzz. Il y a le buzz depuis aujourd'hui.
Ah, oui.
Grâce à Catherine Ringer. Hein. Combien de vues ? 150 000 en 4 heures.
On était à 150 il y a une heure. À 150 000 il y a une heure.
Bon, cherchez sur Internet.
Et 1 million et quelques de likes.
Catherine Ringer. Catherine Ringer, la corniche. Hein, la forêt de la corniche à Romainville. Vous allez voir une petite vidéo qui fait un peu pleurer, hein.
Oui.
Elle fait un peu pleurer la petite vidéo.
Eh bien, les amis, j'ai peur. J'ai malheureusement peur qu'on fasse pas 150 000 écoutes et 1 million de likes.
On va toucher des militants.
On a pris le temps. Fréquence Paris Pluriel, c'est ma première émission en radio il y a 25 ans quand on a créé l'association. Merci beaucoup à Fréquence Paris Pluriel.
Et longue vie à votre radio.
C'est la voix des sans voix, c'est normal.
C'est voilà, il faut continuer, vous aussi.
Alors là, donc la semaine prochaine, nous. Enfin, il y a dans 15 jours, donc on reprendra probablement sur la question du Grand Paris et on parlera très probablement de la Courneuve. Alors, c'est pas sûr, mais donc vous savez qu'il y a un grand parc à la Courneuve qui aussi, à l'instant, est grignoté.
On le connaît très bien.
Donc, c'est possible qu'on parle du Grand Paris et de l'aménagement, mais dans une plus grande périphérie sur les plus grands espaces qui restent. Voilà. Eh bien, c'était Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel et je vous souhaite une bonne soirée à jeudi prochain.